La direction vous remercie. Marceau, le midi.
Puis 16, on parlait du prix de l'essence tout à l'heure dans le secteur du lac Saint-Jean. C'était autour d'un dollar 16, un dollar 17 de ce qu'on comprend. À Québec, on est autour d'un dollar 36. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique la différence de prix, Pascal?
Il y a une autrice qui nous dit que c'est tout le temps comme ça au Saguenay. Fait que si ça descend de notre côté, puis on est à 1,30 environ, ouais. Là, ben, au Saguenay, ça va être au moins 20 sous de moins.
Okay. Puis c'est peut-être une erreur. Là. J'avais 1,17, 1,18 tantôt, mais effectivement, c'est autour d'1,28, 1,29 actuellement. Puis secteur Saint-Lambert, qui est ma station-service préférée en Beauce,
okay.
1,36.
Bon.
C'est le moins cher.
Et dans moyenne, par exemple?
Elle est toujours maître de l'essence chez le moins cher. Comme ça, les autres qui sont plus hauts vont avoir une petite tendance à baisser le prix du litre d'essence. C'est 26 degrés sur Québec. Ayons une petite pensée là, pour tous ceux qui travaillaient à l'air climatisé, là, puis je m'inclus là-dedans. Ayons une petite pensée pour les gens qui travaillent à l'extérieur. Pascal, 36 degrés comme température
buvez
ressentie.
De l'eau, faites pas comme Yann.
Avec le facteur humidex. Ah ouais, tu veux qu'ils boivent de l'eau?
Oui, eux
autres. Ils n'ont pas pensé.
Il y en a qui sont peut-être un peu plus intelligents. Ouais, mais quand tu es comme toi, j'ai pas besoin de ça, moi j'ai mon café, ton eau, Yannick, faut pas t'attendre d'avoir soif.
Ouais, c'est ce qu'ils disent. Aujourd'hui, alternance soleil-nuage, 30% de probabilité d'averse, un ciel dégagé cet après-midi, ciel dégagé pour ce soir, minimum de 17. Demain mardi, c'est ensoleillé avec un maximum de 29. Encore là, l'humidex va venir nous mener le trouble. 37 degrés comme température ressentie demain. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 31. Jeudi, de la pluie, maximum de 23. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 24 degrés. Donald Trump et ses frasques, ça finit plus dans les dernières heures, Donald Trump a menacé les alliés de la Russie de tarifs douaniers très sévères si aucun accord n'est conclu. Donald Trump et ses menaces, c'est juste incroyable. Donald Trump et ses revirements aussi. Quand il fait quelque chose, quelques jours ou quelques heures ou quelques semaines plus tard, il revient sur ses décisions. C'est juste hallucinant son mandat qui ne fait que débuter. Mais au moins, on a la chance de jaser avec Valérie Beaudoin, qui est analyste politique américaine. Il y a ça de positif avec Donald Trump. Salut Valérie!
Salut!
Est-ce que tu es là, Valérie? Oui?
Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, absolument. Je t'entends bien. Oui, parfait.
Oui.
Donald Trump et les Russes, là, on y va de menaces encore une fois, que ce soit contre le Canada, contre le Mexique, contre la Russie. Encore là, des tarifs douaniers, des tarifs douaniers, des tarifs douaniers. C'est juste incroyable, ça, le début de son mandat.
Ben oui, parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Et c'est toujours, est-ce que c'est vraiment une promesse? Est-ce qu'il va le tenir? Est-ce qu'il va reculer? Là, dans le cas de la Russie, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas dans un cas comme avec le Canada, avec l'Union européenne ou avec d'autres pays où on impose des tarifs. On est vraiment dans le contexte de faire une pression pour mettre fin à la guerre en Ukraine parce que Trump se rappelle quand même qu'il avait dit « je vais régler ça en 24 heures avant même la première journée de mon mandat ». Bon, on sait que ce n'est pas arrivé et il a promis aussi qu'il allait avoir un accord de cessez-le-feu. Il a mis des limites à Vladimir Poutine par moment. Il s'est chicané avec Volodymyr Zelensky de l'Ukraine. On peut penser à l'épisode théâtral dans le bureau Oval là, il y a quelques mois, quelques semaines. Là, mon Dieu, le temps va tellement vite. Mais là, il est frustré de Vladimir Poutine parce que c'est comme s'il faisait perdre la face. Hein. Il faisait perdre la face en ne négociant pas avec l'Ukraine. Au contraire, là, il fait de plus en plus de frappes. Alors là, il lui donne une limite de 50 jours. Est-ce que ce sera vraiment respecté ou pas? Ça, c'est toujours la grande question parce qu'avec Donald Trump, on a des sursis, on a des changements, puis on a de l'interprétation de déclarations aussi qu'on peut avoir par la suite.
Mais est-ce que les Américains profitent actuellement de l'instabilité que Donald Trump met en place depuis le début de son mandat?
Je veux dire, les Américains au niveau...
Niveau économique, là, est-ce que ça s'est amélioré là, depuis le début de son mandat ou l'incertitude ben, fait en sorte qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer?
Honnêtement, il y a beaucoup d'incertitudes parce que les gens veulent pas nécessairement, les entreprises ne veulent pas nécessairement aller s'installer aux États-Unis justement parce que c'est chaotique. Il y a beau dire, là, on va vous donner tous les incitatifs, mais ici, mais quand il y a une décision qui attend pas l'autre, quand on impose des tarifs, par exemple, au Brésil pour faire des pressions parce que son ami Bolsonaro est persécuté par la justice là-bas, comme il le dit, ça devient très particulier comme façon de diriger. On voit qu'il y a quand même une stabilité au niveau de l'emploi. L'inflation, ça va quand même bien. Mais les fameux emplois manufacturiers que Donald Trump veut ramener là aux États-Unis, bien, il y a une perte au niveau de ces emplois-là. Donc, les Américains ils profitent pas nécessairement de ça. Après ça, au niveau politique, il y a toujours des gens qui... fait qu'ils peuvent en profiter. Il y a des gens qui vont s'enrichir aussi de la situation, là, mais je pense surtout que Donald Trump, en ce moment, il ne veut pas qu'on parle de ce qui va mal au pays, et de parler de tarifs et de parler de Russie, ben ça enlève une certaine lumière là, sur ce qui pourrait lui faire plus mal politiquement.
Et chez les républicains eux-mêmes, l'ambiance est comment, là?
C'est quand même une fracture en ce moment. Il y a eu le Big Beautiful Bill, là, vous vous souvenez, mm-hmm. le grand projet de loi de Donald Trump de plusieurs milliards de dollars qui allait faire augmenter le déficit. C'est justement l'origine de la chicane avec Elon Musk, là, qui disait, voyons, on peut pas dépenser comme ça, c'est pas ça la promesse électorale qui a été faite. Donc ça, c'est la première division. On a vu que ça a passé le projet de loi, mais vraiment, comme on dit en bon québécois, sur les fesses. Et l'autre division, c'est l'histoire de Jeffrey Epstein. Je sais pas si vous avez vu passer ça, là, cette saga-là dans les derniers jours, mais Jeffrey Epstein, on se souvient, il est mort en prison, accusé de trafic de jeunes femmes, entre autres, plein de crimes de nature sexuelle, connaissait beaucoup de gens influents, dont Donald Trump, Bill Clinton, on pourrait en nommer comme ça plusieurs. Et là, il y a la fameuse liste. Ça, c'était la promesse électorale de l'administration Trump. Vous allez savoir vraiment ce qui s'est passé pour John F. Kennedy. Vous allez vraiment savoir ce qui s'est passé pour Martin Luther King. Et on va tout savoir sur Jeffrey Epstein. Et là, ils ont décidé finalement, il n'y en a pas de liste dans le fond. On vous a parlé d'une liste pendant des semaines, mais là, il n'y en a pas. Puis la vidéo qu'on a publiée, ou qu'on a mis la main sur cette vidéo-là là, pour la nuit où Jeffrey Epstein se sera enlevé la vie, ben là, a été peut-être édité. Donc, ça alimente beaucoup de théories là, du complot, beaucoup de doutes, et ça crée une division énorme là au sein du parti, parce qu'on se dit qui veut cacher quelque chose là-dedans, et on espère qu'il y a des gens qui seront peut-être mis à la porte là, dans toute cette histoire.
Puis c'est particulier de voir aussi que, bon, auparavant, il y en a qui défendaient Donald Trump en disant, ben au moins à l'international, il va être capable d'avoir des relations X, mais on se rend compte qu'au final, il se chicane un peu avec tout le monde, il se chicane aussi avec celui qui était son grand allié, Elon Musk. Est-ce qu'il est capable d'entretenir des relations sincères ou c'est beaucoup plus personnel finalement son mandat actuellement?
C'est beaucoup plus personnel. Et Donald Trump, c'est ce qu'on a vu, par exemple, je donne l'exemple de Justin Trudeau. Là. Les deux ne s'aimaient pas, ça paraissait dans les relations internationales, car normalement, même si tu n'aimes pas la personnalité peut-être d'un autre politicien, tu peux mettre ça de côté quand tu as des traités, quand tu as une bonne entente. Là. Lui, au contraire, là, ça devenait très, très personnel. Avec Vladimir Poutine, là, de temps en temps, il l'admire, ça va bien. À d'autres moments, non. C'est difficile, oui, pour lui d'entretenir des relations, mais Donald Trump, écoutez, je pense que ça, c'est un fait. Là. C'est quelqu'un qui fait un peu d'intimidation. Là. C'est comme un bully à l'international avec les autres dirigeants. La preuve, c'est les menaces de tarifs. Il aime beaucoup Mark Carney, il dit que c'est un gentleman, mais après ça, parfait, on vous met au-dessus de la tête un 35% qui n'était pas prévu. Alors, comment entretenir de bonnes relations avec quelqu'un qui, comme ça, te dit d'un côté qui est ton ami, ton allié, mais de l'autre côté, sans te prévenir, ben, peut prendre des décisions qui font mal politiquement, qui font mal aussi à plein de niveaux. Là, même avec Netanyahou en Israël, il y a eu des moments où Netanyahou et Donald Trump étaient frustrés l'un envers l'autre. Alors, il n'y a pas de relation lune de miel là, avec personne là, sur le long terme.
Puis ça, c'est sans compter que, tu sais, à travers toutes ces petites guéguerres qu'il y a à gauche et à droite avec les différents pays, même à l'interne avec des artistes comme Rosie O'Donnell qui est née aux États-Unis. Oui. Qui s'est sauvé de l'administration Trump en 2025. Je pense qu'elle est retournée en Irlande. Il dit, Rosie O'Donnell, elle peut rester en Irlande. Moi, je vais retirer sa citoyenneté américaine. Alors qu'elle est née aux États-Unis, c'est assez weird là, comme citation.
Ben c'est surtout pourquoi est-ce que le président devrait se mêler de ça, tu sais, des critiques, là, il y en a toujours, hein. Barack Obama a été critiqué, Joe Biden, Bush, ils ont tous eu des critiques de part et d'autre. Il y a des gens qui les aiment, il y a des gens qui les aiment pas. Puis là, parce que t'as un ou une artiste qui parle contre toi, tu te mets à regarder l'idée de lui retirer la citoyenneté. Même chose avec Elon Musk, à un certain point, là, il y avait l'idée, est-ce qu'on va lancer des enquêtes? Est-ce qu'on va couper dans ses fonds? Est-ce que, il y a Steve Bannon, l'allié de Donald Trump, qui disait, ben, on pourrait peut-être justement lui aussi l'expulser et puis lui enlever le droit d'opérer aux États-Unis. On est dans une démocratie. Est-ce que les gens ont encore le droit de parole ou il faut avoir une menace d'être expulsé si justement ça va très loin? C'est là que ça devient un peu inquiétant.
Il y a quelque chose de beau aussi qui s'est passé. Il y avait des récompenses pour des restaurants Michelin aux États-Unis dans les dernières heures. Puis il y a un grand chef qui a eu un grand prix justement par la qualité de sa nourriture, qui est monté sur scène, qui a enlevé son veston. Il était écrit « Immigrants feed America ». Moi, j'ai trouvé ça très beau à constater, mais on voit qu'il y a une déchirure complète actuellement. Quand ça se rend dans la cuisine, la politique, c'est particulier, là.
Bien, c'est parce que c'est les gens, ils se disent, je vais utiliser toutes les plateformes possibles pour justement envoyer des messages. On le voit avec les artistes, par exemple, quand ils vont recevoir des prix aussi, les acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses. Après ça, est-ce que les gens les écoutent ou non? C'est, tout dépend de leur famille politique. Mais
et c'est un risque c'est un risque pour ces artistes-là de le faire parce que souvent, ils peuvent perdre des fans et tout. On leur dit souvent, restez dans votre créneau. Là. Votre créneau, c'est divertir les gens. Là. Allez pas en politique. T'sais. Même au Québec, il y a des vagues de tout ça quand un artiste décide de prendre la parole politiquement parlant. Mais ça semble assez fort aux États-Unis en ce moment.
Oui, mais on voit aussi que l'effet est quand même limité. Là. Si on se souvient l'élection Harris-Trump, là, combien d'artistes ont appuyé Kamala Harris? C'est Taylor Swift, Beyoncé, il y en avait à la tonne. Au final, les gens ont quand même choisi d'élire Donald Trump. Donc, il y a un impact peut-être au niveau de conscientisation, peut-être des enjeux. Ça, je trouve ça quand même intéressant, justement, comme là, sur l'immigration, de rappeler que ben, c'est qui en cuisine? C'est qui dans le secteur de l'hôtellerie? En agriculture, là, dans les champs, c'est souvent des travailleurs étrangers. On le sait, on le voit ici aussi. Il y a des travailleurs qui sont en situation régulière là-dedans. Et là, Trump voit que, au niveau économique, là, d'expulser tout ce monde-là, c'est pas nécessairement bon. Les gens veulent plus aller travailler. Ils ont peur d'être expulsés. C'est des gens qui sont là depuis des années, qui ont contribué quand même à la société américaine, là, même si leur statut était régulier. Il y en a qui essaient d'avoir un statut régulier. Alors là, ils commencent à se dire, ben, parfait, peut-être qu'on va donner une petite pause, là, aux gens de l'hôtellerie. Peut-être que dans le secteur agricole, on va pouvoir laisser ces gens-là travailler finalement, mais ça devient un peu du cas par cas, puis ça amène énormément de confusion puis de peur auprès de ces gens-là.
Le 13 juillet 2024, il y a un homme qui a tiré sur Donald Trump, Valérie. Ça se passait à Butler, en Pennsylvanie. Donald Trump s'est fait tirer dessus, blessure légère à l'oreille, nous dit-on. On a tous vu ça, là, le fameux attentat contre Donald Trump. Il y a un rapport parlementaire qui a sorti, puis visiblement, à part des gens qui ont été retirés de la sécurité pendant quelques semaines sans salaire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, si ce n'est que les services secrets américains, ainsi que les services policiers qui étaient là ce jour-là, ont fait preuve d'un laxisme hors du commun. Là. C'est à se demander s'ils ne voulaient pas qu'ils se fassent tirer. Là.
Bien, c'est surtout... ce qui était particulier, c'est que Donald Trump était candidat, mais était ancien président. Parce que normalement, un candidat n'a même pas tant que ça de sécurité, là, dans le sens que c'est assez frais. Là, c'est pas le gouvernement qui va payer ça, mais là, comme c'est un ancien président, ben c'est les services secrets comme Barack Obama, comme George Bush, comme Bill Clinton, comme Joe Biden ont encore de la sécurité là, à vie, là, tu restes président toute ta vie aux États-Unis. Et là, c'est de dire, ben est-ce qu'il y en avait suffisamment? Parce que c'est pas juste un ex-président qui, je sais pas, décide comme, je sais pas, Obama, d'aller à Hawaï en vacances, d'aller donner une conférence à quelque part, d'aller à Chicago, de se promener. C'est quelqu'un qui était candidat très controversé. Alors, est-ce que la sécurité était adéquate? Après ça, il y a eu justement des espèces de levée de bouclier, pas de bouclier, mais de drapeau en disant, ben là, il faut faire comme si c'était le président actuel au niveau du niveau de sécurité parce que c'était deux candidats qui s'affrontaient, qui avaient besoin de ce niveau-là de sécurité. Alors, ça a été changé. Et pour avoir assisté à des rassemblements de Donald Trump par la suite, entre autres encore en Pennsylvanie, il y avait beaucoup, beaucoup de sécurité. Là. Je sais pas le mot exact, des tireurs d'élite, mais des snipers, c'est sur tous les toits. Il y avait des gens qui surveillaient un peu partout. Alors, c'est très sécurisé, mais il y a toujours des risques. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que ça faisait un peu amateur là, la façon de faire, qu'on réussit à se rendre aussi proche pendant tant de temps. Là, il était installé pendant un bon bout, le tireur, avant d'atteindre Donald Trump.
Il n'y a personne qui a perdu son emploi, de ce qu'on comprend. Il y a la directrice des services secrets de l'époque, Kimberly Cheadle, qui, elle, a démissionné. Puis il y a 6 policiers des services secrets qui se sont vus notifier des sanctions disciplinaires, donc perte d'emploi, perte de revenus pendant quelques semaines. Donc ça peut aller d'un 2 semaines à un 6 semaines, de ce qu'on comprend. Là. Mais c'est assez particulier là, ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Puis c'est à se demander si ça revient un peu à ce que je te disais. T'sais, moi, je ne suis pas un amateur des théories du complot, mais le laxisme dont on faisait usage pour ce qui est de la sécurité d'un des gars les plus détestés aux États-Unis, Donald Trump, il était détesté par à peu près la moitié des Américains. C'était assez évident qu'il y a des gens qui allaient tenter de s'en prendre à lui. Puis quelques semaines plus tard, sur un terrain de golf, même affaire. Heureusement, on a réussi à surprendre l'individu qui voulait s'en prendre à Donald Trump. Mais c'est curieux. T'sais, quand on écoute c'est sûr que nous autres, on est un peu influencés influencés par Hollywood, mais quand on écoute des films hollywoodiens, on a l'impression que ces gens-là, c'est les gens les mieux protégés sur la planète. Puis là, on s'aperçoit qu'un petit cul de 20 ans qui est monté sur le dessus d'un entrepôt a réussi à toucher à l'oreille du prochain président des États-Unis. C'est juste hallucinant.
Et qu'à quelques centimètres plus à droite, pouvait le tuer carrément. Là, ça a vraiment pas... Maintenant, avec cette histoire-là, c'est qu'on a tellement peu de détails. C'est comme... ça alimente les théories des deux côtés. Je m'explique. La théorie, justement, du laxisme volontaire pour que Donald Trump soit éliminé. Puis l'autre théorie de dire, ben est-ce que, justement, c'est arrangé que ce soit vraiment quelqu'un qui savait qu'il n'allait pas l'atteindre mortellement pour avoir cette espèce d'effet de sympathie. Fait que ça alimente les théories des deux côtés parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. On comprend pas toutes les motivations de la personne. Et on est à l'air, hein, vous savez très bien, là, l'information circule rapidement sur X, sur les réseaux sociaux. Fausses informations qui ajoutent tout ça. Est-ce qu'il climat ou ce qui s'est passé? Puis ce qui est fascinant pour moi, c'est que on a quand même failli tuer un ancien président, qui est extrêmement rare, je veux dire, heureusement. Et ça a comme pas eu le temps d'effet sur le reste. On en reparle un an plus tard, là, mais en toute sincérité, on aurait pu changer le cours de la campagne. On aurait pu avoir une espèce de rassemblement autour de Trump en se disant on arrête la violence politique, vraiment la division et tout ça. Puis finalement, ça a été comme un épisode. Puis après ça, on a parlé d'autre chose, puis on est revenu dans la petite politique puis dans la rhétorique d'attaque de part et d'autre. Il n'y a pas eu de leçons non plus qui ont été tirées de ça. Puis ça, je trouve ça quand même extrêmement dommage, surtout en sachant qu'il y a eu des élus, on sait au Minnesota, une élue qui a été tué récemment, son mari aussi, un autre élu qui a été touché, le mari Nancy Pelosi attaque au marteau il y a quelques mois ou l'an dernier, là, si je ne me trompe pas, le gouverneur de la Pennsylvanie, cocktail Molotov chez lui. Je pourrais continuer longtemps avec cette liste-là, alors il n'y a pas de leçons qui ont été tirées de ça, puis même dans les autres cas que je viens de nommer, des problèmes, c'était pas des anciens présidents, mais au niveau de la sécurité, on repassera. Là, quand tu réussis à lancer un cocktail Molotov dans la résidence officielle d'un gouverneur d'État, là, l'équivalent d'un premier ministre ici, aussi, et que tu as réussi à rentrer chez lui, il faut qu'ils revoient leur sécurité parce que c'est trop d'événements. Et heureusement, il n'y a pas des faits d'hommes à chaque fois, mais il ne faut pas attendre qu'il y en ait pour pouvoir réagir.
Oui. Valérie Beaudoin, c'est toujours un plaisir de t'entendre et de partager tes analyses, toujours aussi intéressant.
Merci beaucoup.
Merci Valérie.
Bye-bye. Valérie Beaudoin, qui est analyste politique américaine. Si vous avez des choses à nous dire, c'est par texto, 418-971-1021, 418-971-1021. Pascal, qu'est-ce qui se passe sur la route?
Un petit bug actuellement sur mon ordinateur. Laisse-moi juste rafraîchir, Yannick. Pour ce que je vois sur les cartes, Henri IV Sud, hauteur boulevard Laurier, la voie de droite est bloquée, il y a une panne. Sinon, ben, sur Henri IV Sud, là, ça s'extensionnait jusqu'à chemin Sainte-Foy, chemin des Quatre-Bourgeois. Un petit peu plus tôt, ça semble s'être résorbé, mais ça s'est transféré officiellement.
Je regarde sur le site du Journal de Québec, il y a déjà des sondages. Parmi les 50 artistes qui ne sont jamais venus sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec, lequel ou laquelle aimeriez-vous le plus voir? Adèle, Angèle, Ariana Grande.
Angèle, oui.
Bad Bunny, ce serait juste complètement fou.
Cette année, si Bad Bunny était venu, mettons, à la place de Farco ou quelque chose, ça aurait été une foule monstre, peu importe l'orage d'hier.
Fait qu'on met Bad Bunny, j'aurais mis Blake Shelton aussi.
Chris Stapleton, s'il vous plaît.
Ouais, ben là, je
M&M, je comprends pas qu'ils sortent pas.
Ils l'ont-tu mis? J'ai-tu le droit de voter deux fois? Ben oui, c'est bien fait, ça, je peux voter deux fois. Fait que Bad Bunny, Blake Shelton, je l'aurais mis Bob Dylan.
Ah ben ouais. Ok.
Bruce Springsteen, The Boss sur les plaines, ça aurait été pas pire. Calvin Harris, BTS, ça c'est les Coréens, je pense. Ça se peut-tu?
Je te vérifie. Oui.
De mémoire, c'est ça. Chris Stapleton.
Un boys band, oui. Chris Stapleton, j'espère.
Il est là. Coldplay.
Ça serait fou.
Coldplay, ça serait fou.
Mais Coldplay, ils donnent des shows depuis plusieurs années qui sont les mêmes shows. Là.
Drake, Eminem, Garth Brooks. Vous êtes en train de me scraper le cœur. Là. Pour qui je vais voter là-dedans?
Ouais, BTS, c'est le K-pop band, oui.
Justin Bieber, on s'en fout.
Non, mais là, il a sorti un nouvel album. Il est rendu Lil Bieber. Non, mais Yannick, c'est drôle, ça. Lil Bieber.
Pearl Jam. Hey, pour qui je vote, moi, là?
Ben, tout ça. Grosse édition, c'est le cas.
Je peux pas. Ça m'en prend un. Adèle, on s'en fout.
Mais Chris Stapleton pour ta collègue.
Angèle, on s'en fout.
Hein, non,
Ariana
c'est
Grande, on s'en fout.
Quel déplaisant.
Oui.
J'adore que tu approuves avant que je finisse ma phrase. Ça veut dire, peu importe ce que je vais dire, tu peux approuver.
OK, je vais y aller avec Eminem.
OK, Eminem, c'est correct.
C'est fait.
Ton deux, c'était quoi?
Mon deuxième.
Chris Stapleton.
S'il te plaît. Ça aurait été Garth Brooks.
Oh, oui.
Ah, j'étais un gars.
Mais toi et moi, on ne trippe pas sur le country. Je pense qu'on trippe sur. Mettons...
J'adore le country. J'écoute pratiquement juste ça ces temps-ci.
Ça t'a changé. T'étais pas un gars qui trippait sur le country.
C'est l'été.
Non. Yannick Marceau.
Ben oui.
C'est correct, puis t'as le droit maintenant. Mais même Gab Marino, qui est venu nous faire une chronique là, récemment,
ouais,
allait te ramasser parce qu'il dit t'es la personne la plus redneck de son entourage, mais t'aimes pas le country.
J'ai jamais dit ça.
Pas que t'aimes pas, mais t'es pas le plus grand fan de country du monde. Mais c'est correct là, maintenant que tu tripes. Il y a une grosse vague, c'est
quel
super populaire.
Quel a été le, votre spectacle coup de cœur sur les plaines d'Abraham?
Ah.
Ouais, moi, c'est vraiment Slayer. Ça m'a permis de ne pas entendre mes enfants de la fin de semaine. tu vois, Slayer, c'est ça, c'est le choix numéro un des abonnés du Journal de Québec actuellement.
Ah oui, mais c'est toi et tes chums, ils sont allés voter. Là. David Chabot qui vient tantôt, on va lui demander.
Le deuxième, c'est Shania.
Oui, Cheyenne Atrin.
Shania. Après ça, Fred est à 1%. Pourtant, c'est un artiste que j'ai entendu pas mal parler. Def Leppard est à 11%.
Ouais, c'est des gros titres. Là,
Simple Plan, 9%. Benson à 12%. OK, ben c'est bon. On ira voir tantôt, si tu le veux bien.
Okay? Oui.
Résultat du sondage. OK, on fait une courte pause, midi 27, on revient.